Alors, aujourd'hui, on va parler de mystère, on va parler de secret, de découverte, mais découverte extraordinaire. Pour introduire cela, cette année, j'avais un cours à Vaux-sur-Seine sur les fondements de l'étude de l'Ancien Testament. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que on n'a pas trouvé l'original de l'Ancien Testament, des textes. Par contre, il y a des manuscrits transmis par diverses manières. Et donc, du coup, globalement, pour simplifier, par rapport aux sources de notre Bible dans l'Ancien Testament, il y a les textes massorétiques, c'est-à-dire en hébreu. Il y a les textes en grec, globalement. Et en 1947, il y a une découverte faite par un berger dans la région qui se trouve en Cisjordanie, une région qui s'appelle Qumran. Et ce berger-là a perdu en fait un de ses brebis et est parti dans une grotte. Voyez la grotte qui est là. Et il est parti pour chercher l'animal et c'est là qu'il a découvert des rouleaux. Des rouleaux, des manuscrits. Vous avez l'exemple de rouleaux. Et le premier rouleau, par exemple, ça, c'est un rouleau de 7 mètres. Et il a découvert ce rouleau-là. Au départ, il ne savait pas de quoi parle. Mais en fait, ce sont des manuscrits de la Bible. De la Bible. Et donc, c'était une découverte majeure pour nous, en tout cas, pour nous, chrétiens. Cette découverte de ce berger en 1947. Et actuellement, il y a à peu près entre 800 et 1000 manuscrits et ils continuent encore hein, à chercher. Donc, c'était une communauté en fait qui vivait en fait loin, isolée de toute. Et c'est ça la communauté de Qumran. Et ils ont essayé d'écrire, de transmettre la Bible, les Écritures en tout cas de l'Ancien Testament. Donc, voilà la découverte. Et aujourd'hui, on va parler de la découverte encore extraordinaire pour nous en tant que chrétiens. Un mystère caché mais dévoilé par Dieu pour les membres de son peuple. Et dans d'autres versions, un mystère caché mais dévoilé par Dieu pour les non-juifs, pour nous qui sommes non-juifs. Et ce texte, le texte d'aujourd'hui, on va le trouver dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens. Alors, l'épître aux Colossiens est écrite par l'apôtre Paul quand il était en prison à Rome. Et Colosse, c'est une ville hein, qui se trouve dans la Turquie actuellement. Mais Paul n'a jamais mis ses pieds à Colosse. Et il y a un de ses collaborateurs, Epaphras, lui-même un Colossien, c'est lui qui en fait, qui est avec d'autres personnes, qui a apporté l'évangile dans cette ville, Colosse. Verset 7, chapitre 1er, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministère de Christ. Donc c'est Epaphras en fait qui a apporté l'évangile dans cette ville de Colosse. Et à un certain moment, quand l'apôtre Paul est en prison, bah, il a reçu des nouvelles pas très agréables par rapport à la foi de certains Colossiens. Parce qu'il y a des faux enseignements sur Jésus-Christ, reçu par d'autres personnes. Et Epaphras rapporte cela à Paul en disant que certains chrétiens de Colosse reçoivent des faux enseignements sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va écrire cette lettre aux Colossiens pour répondre à ces enseignements erronés. Et justement, cette lettre place un accent particulier sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre de salut qu'il a accomplie. Nous allons prendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 29 aujourd'hui. Et vous voyez le titre dans Bible de Semeur, le titre c'est « Le combat de l'apôtre pour l'Église ». Parce que justement, il y a ces faux enseignements-là que l'apôtre Paul veut combattre. Et il écrit dans cette partie, verset 24 au verset 27, chapitre 1er. Nous allons le lire. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète, pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. » Voilà là, l'histoire de secret, de mystère caché par Dieu de génération en génération. Mais maintenant, Dieu révèle en tout cas ce secret. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte de son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Donc l'apôtre Paul parle ici de son combat pour l'Église de Dieu et pour l'Évangile. Le verset 24, il parle de ses souffrances qu'il endure. N'oubliez pas qu'il est en prison à Rome, quand il écrit cette lettre. Le verset 25, il parle de sa responsabilité, de sa mission que Dieu lui avait confiée. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur. Selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard, c'est quoi la mission de l'apôtre Paul? Sa mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Et la raison d'être de son combat, le but de son combat, c'est, le verset 28, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'il dit que nous annonçons en avertissant et en enseignant de tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Juste au-dessus, mais je vous donne juste, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque verset, chaque mot presque, on peut faire un message. L'apôtre Paul chante un hymne pour Jésus-Christ. Ici, dans le verset 28, il parle de Jésus-Christ, la raison d'être, de sa mission, de tout ce qu'il fait. Mais juste au-dessus, quand vous êtes chez vous, vous pouvez lire. Là, il chante, il fait un hymne de l'apôtre Paul à Jésus-Christ. Pour lui, qui est Jésus-Christ? Nous allons lire tout simplement. Ce fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils, Jésus-Christ, est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Jésus-Christ est le premier rang. C'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Je vous invite vivement à relire chez vous cet hymne de l'apôtre Paul par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va, en tout cas, annoncer dans son combat. Le Christ n'est pas une créature, car il existe avant toute chose. Il est l'image du Dieu invisible et toute la création trouve en lui son origine. Tout a été fait pour lui, mais il y avait le péché, notre péché qui est passé par là. Et du coup, notre relation avec Dieu a été brisée. Et le Christ, il est notre réconciliateur avec Dieu, le chef de l'Église et d'une nouvelle création inaugurée par sa résurrection. En lui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc voilà Jésus-Christ, ce que l'apôtre Paul va en tout cas annoncer. C'est sa mission d'annoncer Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Vous avez ici, en tout cas, cet hymne de l'apôtre Paul pour Jésus-Christ. Mais nous allons arriver maintenant à cette histoire de secret. Donc là, voilà Jésus-Christ, tout ce que nous avons vu. Hein. Mais il y a un secret que Dieu a caché aux générations d'avant. Mais maintenant, dans les évangiles, Dieu va dévoiler ce secret pour nous. Pour les membres de son peuple, pour les non-juifs. Mais Dieu a dévoilé un mystère caché pour les membres de son peuple. C'est-à-dire quelque chose en plus, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à tout ce que nous avons vu, en plus de tout ce que Jésus est, sa personne, et en plus de tout ce qu'il a fait, son œuvre, sa mort, sa résurrection. De quel mystère s'agit-il? De quel secret Dieu a dévoilé pour nous? Le secret, c'est Christ est en nous. C'est ça le secret, dans notre cœur, dans notre vie. Il n'est plus réservé aux Juifs seulement, mais également à nous qui sommes non-Juifs. Vous vous rappelez l'histoire de l'apôtre Pierre avec Corneille? Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Et Jésus-Christ n'est plus une personne en face de nous, mais tout simplement, c'est ça le secret, une personne à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Voilà le secret. Voilà le mystère dévoilé par Dieu. Christ est en nous. Regardons quelques versions de ce verset 27. Dans ce meurt, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse de que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ est en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Ça, c'est la version du semeur. En français courant, car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Et en parole de vie, il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Dans Semeur, il parle de « pour les non-juifs ». Dans Français courant, il parle de « tous les peuples ». Ici aussi, en parole de vie, de « tout le peuple ». Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous. Dans les autres versions, c'est « Christ est en vous ». Et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Moi, quand je regarde ces différents versets, différentes versions plutôt, j'ai retenu les mots « glorieuse richesse » que renferme ce secret. La grandeur de ce mystère, avec le français courant, si riche, si magnifique. En fait, le secret, ce n'est pas juste un secret découvert, mais un secret qui renferme quelque chose de glorieux, quelque chose de riche, de magnifique, de grand pour nous. Christ est en vous. Et permettez-moi aujourd'hui de voir quelques aspects de cela. Quelques aspects de cette richesse, de cette grandeur, de cette glorieuse richesse, de ce secret dévoilé par Dieu pour nous, pour les membres de son peuple, pour les non-juifs, mais aussi pour les juifs. Et il s'agit en fait du Saint-Esprit. Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est son esprit qui est en nous. Et si vous avez remarqué, on a entonné beaucoup de chants sur le Saint-Esprit ce matin. Alors, j'aimerais parler de cinq. On ne peut pas parler de tout ce qui est richesse, mais je voudrais juste parler de cinq échantillons de cette richesse, de cette grandeur, de ce secret dévoilé par Dieu pour nous. Le premier, c'est que le Saint-Esprit est dans notre cœur pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Le Saint-Esprit nous communique, en fait, que Dieu existe, comme a dit toujours notre papy pasteur. Le Saint-Esprit nous communique que Dieu existe, que Dieu parle et que Dieu agit. Et surtout, le Saint-Esprit nous invite à le reconnaître dans notre vie. Le Saint-Esprit communique les vérités de Dieu à notre esprit, afin de les convaincre du péché, mais surtout afin de répondre favorablement à l'appel de Dieu à venir à lui, à se repentir et à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Première richesse, c'est que le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés et nous aide, nous invite à venir à Dieu. Imaginons que Dieu nous laisse dans le péché. Imaginons que Dieu ne vient pas à notre secours, mais Dieu nous laisse dans notre état de péché. Conséquence, mais on est mort. Pas besoin d'être chrétien ou pas chrétien. Mais quand on voit très bien qu'une personne est laissée dans le péché, il va mourir. Mais dans sa grâce, Dieu ne nous a pas laissés dans nos péchés. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous convaincre de nos péchés et de nous aider à venir à lui. Première richesse. Deuxième richesse de ce secret, Christ est en nous. Une fois que nous sommes sauvés et appartenant à Dieu, l'Esprit réside dans notre cœur. L'Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui rentre et le lendemain, il est fatigué ou il en a marre et il part. Ça nous arrive souvent. Mais le Saint-Esprit, pour celui qui l'accepte, qui accepte de recevoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit est dans son cœur. Et le Saint-Esprit confirme, le Saint-Esprit garantit, le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous rappelle que même si nous n'avons pas encore vu Jésus-Christ, il est là, quoi. Il est là, comme a dit souvent le chant de Rachel. Il est là, même si jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu Jésus-Christ. Hein. Mais il est là, il est présent. Deuxième richesse. Troisième richesse. La présence de l'Esprit en nous nous rend capable de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme tout, hein. Il y a des passages faciles à comprendre. Faciles à comprendre, peut-être aussi faciles à faire. Mais il y a des paroles de Dieu qui sont faciles à comprendre, mais difficiles à exécuter. Mais il y a des paroles de Dieu qui sont déjà difficiles à comprendre. Mais de par nous-mêmes, on est incapable de le comprendre. Je ne sais pas vous, mais la résurrection, je ne sais pas comment vous comprenez ça sans l'aide du Saint-Esprit. Humainement, la résurrection, c'est impossible. Impossible. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre que Jésus est mort et Dieu l'a ressuscité. Et donc, la présence du Saint-Esprit nous aide à comprendre et à interpréter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, Christ en nous, il est notre guide. Le Saint-Esprit marche devant nous. Il nous montre le chemin, aplanit les obstacles, il nous ouvre notre intelligence et il nous éclaire sur toute chose. Des fois, le Saint-Esprit ne nous donne pas exactement ce qu'on... Des fois, on aimerait avoir une réponse exacte sur un problème particulier. Mais le Saint-Esprit ne nous donne pas une réponse exacte, mais il nous donne des éclaircissements. Il nous montre le chemin dans le domaine spirituel. En parlant de Jésus-Christ, comme des Colossiens qui, certains Colossiens en tout cas, qui ont reçu des faux enseignements, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à convaincre en fait de la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'était ça le vrai problème, hein. Le vrai problème des Colossiens. Les Colossiens pensent que, en tout cas, il y avait un problème pour certains sur l'humanité et sur la divinité de Jésus-Christ. Mais parmi les richesses que Dieu nous a dévoilées aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit nous aide à nous apprendre qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qui il est vraiment pour nous. quatrième de richesse que le Saint-Esprit nous donne, c'est que le Saint-Esprit donne à chacun de nous des dons. Dans 1 Corinthiens 12, vous avez différents types de dons que le Saint-Esprit distribue selon sa volonté à chacun de nous. Tous ces dons, grands ou petits, nous sont donnés par le Saint-Esprit afin que nous soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ dans le monde. Des ambassadeurs qui manifestent sa grâce et qui le glorifient. Mais le Saint-Esprit ne donne pas uniquement des dons. Il ne distribue pas tout simplement, voilà le don, voilà le don, voilà le don. Mais le Saint-Esprit nous aide aussi à porter du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans nos vies. C'est-à-dire que une vie conduite par le Saint-Esprit connaît forcément un changement vers la volonté de Dieu. Quand le Saint-Esprit habite en nous, en tout cas, notre vie porte du fruit. Là, vous avez Galates 5. Hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Peut-être pas en même temps, tout en même temps. Peut-être qu'il y a l'amour, vous avancez là-dessus. Quelque temps après, la joie, quelles que soient les circonstances, le Saint-Esprit vous aide à être joyeux, malgré les adversités. Après, la paix, ainsi de suite. Le Saint-Esprit ramène chacun de nous dans ces différents fruits de l'Esprit. Quatrième, richesse. Cinquième. Le cinquième, c'est le verset 27 qui nous dit, et ça nous rappelle notre devise, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Cinquième richesse. Le fait que le Saint-Esprit est en nous, c'est une garantie pour nous que nous serons avec notre Seigneur dans la vie éternelle à son retour. C'est une garantie pour chacun de nous. Peut-être que on se pose des questions à certains moments. Est-ce que je suis vraiment sauvé à 100%? Est-ce que quand Jésus-Christ reviendra, est-ce que je fais partie du voyage ou pas? Mais le fait que le Saint-Esprit est en nous, c'est une garantie donnée par Dieu de notre espérance pour la gloire à venir. C'est-à-dire qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons avec lui. Cinquième. Six. Six. Vous voyez, hein, moi-même, je me suis trompé dans le nombre. Mais... En tout cas, voilà, moi j'ai mis cinq. Il convaincra le monde pour nous en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Deuxième, il vient demeurer dans nos cœurs. Il nous guide, il nous enseigne, il nous réconforte, il nous encourage, il nous relève quand nous tombons, mais aussi, attention, hein, le Saint-Esprit aussi nous rappelle à l'ordre quand il faut. Il nous titille, oh, là il y a un problème. Le Saint-Esprit nous donne différents dons pour être au service de Dieu et de l'Église, et pour les faire fructifier. Et puis, dernièrement, la présence du Saint-Esprit est une garantie de la gloire à venir. Question alors. Dieu vous a dévoilé son secret aujourd'hui. Il y a Christ, mais maintenant, Christ, il est en vous. Question, est-ce que Christ est en vous? Si Christ n'est pas encore en vous, sachez qu'aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Dieu frappe à la porte de votre cœur. Il veut rentrer dans votre cœur. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est devant la porte de votre cœur. Le Saint-Esprit veut rentrer dans votre vie. Jacques 4, verset 8 à 10. Comme Dieu est à la porte de votre vie, la parole de Dieu dit ici, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si vous n'êtes pas encore en Christ, Dieu est devant votre cœur aujourd'hui. Et la parole de Dieu vous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que vous êtes en Christ? Peut-être que pour certains, la réponse est affirmative. Si vous l'êtes déjà, alors un plan de vie pour vous, pour moi, pour vous aussi. Dans notre texte d'aujourd'hui, un plan de vie pour chacun de nous, si nous sommes en Christ. Plan de vie, c'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu, voilà l'objectif, voilà le plan de vie. Devant Dieu, tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Dieu nous a dévoilé ce secret. Dieu nous a dévoilé ce mystère. Christ est en nous dans un but. Pour que nous soyons en processus pour devenir adultes dans l'union avec Christ. Adultes dans l'union avec Christ. Être adulte dans l'union avec Christ, c'est tout simplement une personne qui mène une vie sous la conduite du Saint-Esprit. Adulte en Jésus-Christ, c'est tout simplement une personne qui laisse le Saint-Esprit agir totalement dans sa vie. Vous voyez, hein, quand c'est un bébé, un enfant, toujours le moi. Tout est centré sur lui. C'est ça, globalement, pour un bébé. Plus on est adulte, on est devenu responsable. Adulte en Christ, ça veut dire que plus on laisse le Saint-Esprit prendre de plus en plus de place dans notre vie, dans nos décisions, dans tout ce qui se passe dans notre vie, on est en processus pour devenir adulte. On ne peut pas dire, hein, dans notre vie terrestre, je pense que personne ne peut dire « Ah, maintenant, je suis adulte en Christ. » Non, on est en processus. Il y a tout à l'heure les histoires de fruits de l'esprit. Vous voyez, il y a plusieurs domaines. Dans l'amour, donc j'avance. Dans la paix, j'avance. Dans la joie, j'avance. Dans ainsi de suite. Et on a toujours quelque chose à avancer. C'est pour ça que personne ne peut dire « Ah non, mais je suis adulte dans l'union avec mon Seigneur. » Non, on est en processus. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet adulte en Christ? Donc c'est une personne, en tout cas, qui mène une vie de communion et d'intimité avec Jésus-Christ. Là, j'insiste sur le mot « intimité ». C'est-à-dire que dans cette union, communion avec Jésus-Christ, il y a des choses que vous disiez à personne, mais à Jésus-Christ lui-même, uniquement à Jésus-Christ. De toute façon, il le sait déjà. Ça ne sert à rien de le cacher parce qu'il sait déjà, mais bah, il veut aussi, hein, même s'il sait déjà, bah, il veut aussi en fait que vous lui disiez ce qui se passe. Et donc, cette question d'intimité, voilà un adulte en Christ. Partager tout avec le Seigneur. Ensuite, une vie de lecture et de méditation pour une vie enracinée dans la parole de Dieu. Là, on est dans le livre de Colossiens par rapport à ces faux enseignements. Mais ce n'est pas uniquement... Pendant la période où Paul a écrit cette lettre, vers les années 60. Hein, vers les années 60. Mais bon, maintenant aussi, il y a des faux enseignements partout. Si nous ne faisons pas attention, bah, nous risquerons aussi d'être influencés par les faux enseignements. Et la seule manière d'éviter cela, bah, c'est de retourner régulièrement dans la parole de Dieu. Ensuite, adulte en Christ, c'est quelqu'un qui mène une vie qui se détourne du péché. On avait dit tout à l'heure parmi les richesses que le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Une vie qui se détourne du péché. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie de reconnaissance et d'attachement. Une vie qui cherche à faire la volonté de Dieu, à lui obéir, à lui faire confiance. Tout cela, c'est par la foi. Hein. Ce n'est pas uniquement par nous-mêmes, mais c'est par la foi. Une vie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Une vie de service. Adulte en Christ, c'est être acteur. Vous savez, hein, on a parlé tout à l'heure des dons. Dieu nous a donné à chacun de nous différents dons. Mais les dons, Dieu nous invite à utiliser pour son service à lui. Pour être donc une vie de service pour Dieu, mais pour son Église. Et donc, nous sommes appelés à devenir des acteurs pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma gloire ou pour votre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Acteurs, mais pas tout simplement spectateurs. Et acteurs, quand je dis acteurs, bah, y a différents dons. Il y a des personnes qui ont des dons pour prier. Peut-être qu'on ne voit pas ici que la personne... Mais Dieu a donné ce don-là, et donc la personne prie pour les uns et les autres. Acteur au service de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des dons pour l'encouragement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des dons pour l'accueil, d'autres pour l'organisation, d'autres pour la leçon des enfants, école de dimanche, d'autres pour les jeunes, d'autres pour... Ainsi de suite. Mais une vie de service pour Dieu et pour son Église. Et puis, le dernier point, ça se rejoint. Une vie qui produit du fruit de l'Esprit. De temps en temps, ce serait bien dans notre vie de faire un peu de bilan. Par nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais de faire un peu de bilan. Là, l'année 2025, ça va se terminer bientôt. Et des fois, ce serait bien de faire un peu de bilan. On se dit, mais si je regarde les fruits de l'esprit, là, cette année, est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a un acte qui m'a marqué? Ok, bah, là, j'ai avancé. Merci Seigneur dans ce domaine-là. Alors qu'avant, bah, sur ce point-là, j'ai du mal. Mais c'est là que je vois que le Seigneur a travaillé à moi. Et du coup, maintenant, j'arrive à faire ça par le Saint-Esprit. Une vie qui produit du fruit de l'Esprit. Voilà être adulte. C'est ça le plan de vie pour nous. Si nous sommes conscients que Christ est en nous, bah, la parole de Dieu nous invite à devenir, à être dans ce processus pour être un adulte en Christ. Aujourd'hui, on a parlé de ce mystère caché mais dévoilé par Dieu pour les membres de son peuple. Ce mystère, c'est Christ est en nous, garantie de notre espérance de la gloire à venir. Christ est aussi pour les non-juifs et il habite dans notre cœur et dans notre vie. Il est à l'intérieur de nous, il est dans notre cœur. Est-ce que nous en sommes conscients? En tout cas, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à jouir de toutes les richesses que nous avons parlé, de toutes les richesses de ce secret dévoilé pour nous. Christ est en nous. De toute la richesse et de toute la grandeur de la présence de Jésus-Christ en nous, par l'intermédiaire de son esprit, dans un seul but de devenir un adulte mature, responsable et acteur pour la gloire de Dieu. Pour terminer, je relis le texte que nous avons lu au début du culte, Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, a dit le Seigneur. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Christ est en nous et en lui nous porterons beaucoup de fruits avec son aide. Amen.